Je vous propose d'ouvrir la parole et de lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Nous lirons du verset 38 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 44. Deux Rois, chapitre 4. À partir du verset 38. Alors, si vous y êtes, je commence la lecture. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot !» Homme de Dieu. Et ils ne purent manger, et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Et puis on aura une deuxième lecture, plus courte, dans l'Épître aux Colossiens. Chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà, jusque-là, la lecture. Et nous voulons prier. Merci, Père, pour ta parole. Ça nous a été rappelé ce matin. C'est un trésor. Pardon pour toutes les fois où on a de la peine à l'ouvrir. Toutes les fois où on rechigne. Toutes les fois où on le fait un peu de manière habituelle. Avec un peu de... un peu de manque d'enthousiasme. Alors que cette parole... Tu nous l'as laissé pour que nous puissions vivre. Cette parole nous permet d'avancer, de comprendre, de nous épanouir en toi. Merci que cette parole, tu désires nous la faire comprendre ce matin. Tu désires visiter chacun de nous. Tu connais nos situations et tu veux nous faire du bien. Tu veux nous encourager chacun. Pas seulement nous ici à Cavaillon, mais aussi à Carpentras, mais aussi sur la surface du monde. Merci parce que tu as des paroles pour ton peuple aujourd'hui. Et je te prie que tu bénisses ton peuple au travers de ta parole et que chacun soit enthousiasme, réjoui par cette parole et reparte différente qu'il est venu. Merci pour cela. Merci que le Saint-Esprit veut agir dans nos cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, j'ai remarqué que Paul aime bien poser une question pour commencer. Je me suis dit, et si je vous posais une question aussi? Je te copie. Savez-vous d'où vient le tabac? Alors là, ce n'est pas du tout la même question que toi. Hein. D'où vient le tabac? Vous savez d'où ça vient? D'Asie. Si quelqu'un me dit d'un paquet de cigarettes, Non. En fait, la culture du tabac, la plante, le tabac, vient d'Amérique du Sud. Et c'était une plante qui était fumée par les Incas et les Aztèques, en particulier lors des fêtes. Et puis, on allouait de nombreuses vertus au tabac, dont celle en particulier de calmer la faim et la fatigue. On l'utilisait également comme plante médicinale, soit pure, soit associée à des feuilles de coca et d'autres plantes. Il a fallu attendre 1492. Ça vous dit quelque chose ? Christophe Colomb, bon, qui découvre ça, on peut peut-être mettre en parenthèse, hein. En tout cas, pour voir apparaître avec Christophe Colomb le tabac en Europe. Et lorsqu'il a ramené cette plante a été utilisée premièrement comme plante ornementale. C'était une jolie plante. Et elle a servi de déco à la cour d'Espagne en Europe. Donc, le tabac a été ramené parce que c'est joli et ça faisait joli. Cool. Ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que le médecin personnel de Philippe II commence à propager le tabac. Cette plante devient rapidement très en vogue. On lui attribue toutes les vertus. Le tabac guérit les migraines, les maux de dents, les rhumatismes, etc. On l'applique même en décoction pour administrer des lavements. Bref, c'est le médicament universel. Le tabac, à un moment donné dans l'histoire, c'est le médicament universel. Mais voilà, cette utilisation abusive provoque de nombreux accidents. Et en 1821, le dictionnaire des sciences médicales met en garde contre son utilisation abusive. Les médecins de l'époque découvrent par autopsie les dégâts causés par le tabac sur les organes. La nicotine ne sera identifiée que vers 1840 avec l'invention de la première cigarette. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le tabac tue près de 6 millions de personnes dans le monde, dont 600 000 non-fumeurs victimes de tabagisme passif. C'est la première cause de mortalité évitable en France. 200 morts par jour. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais tant de morts pour une belle plante verte ? Une plante si inoffensive en apparence, pour faire joli, pour décorer la cour d'Espagne, pour mettre en valeur les habitations. Tant de morts pour ça. Mais c'est cher payé, non ? Vous ne trouvez pas ? Le texte de ce matin nous rapporte deux interventions miraculeuses accomplies par le prophète Élisée en faveur des hommes. Sans cette intervention, la mort serait ou semblait inéluctable. Ces deux miracles sont d'ordre alimentaire et répondent de ce fait à des besoins spécifiques. Le premier miracle que nous avons lu consiste à neutraliser ce qui est mauvais, tandis que le second miracle multiplie ce qui est bon. J'ai donc donné pour titre à ce message « Secouru et rassasié ». Ces deux récits, qui sont très brefs, finalement, quand on les lit, hein, 4 et 3 versets, deux histoires, 4 et 3 versets, sont très riches d'enseignements pour nous, encore aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Neutraliser, c'est mon premier point, neutraliser ce qui est mauvais. Donc, Première histoire, versets 38 à 41. Ce premier récit s'inscrit dans un contexte particulier. Et le contexte est particulièrement difficile. On lit que, un peu avant, une famine frappe le pays sans que la raison nous soit donnée ou soit mentionnée. Tout le monde est touché et tout le monde souffre de cette situation. Remarquons au passage que ni les disciples d'Élisée, ni Élisée lui-même ne sont épargnés. Eux aussi subissent de plein fouet cette situation pénible. Et là, j'aimerais dire déjà que ça tord le cou à une première idée reçue. Cette idée, qui est parfois propagée dans les églises, est que le croyant est épargné des vicissitudes de la vie. Mais ça, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. La Bible n'a jamais déclaré cela. Par contre, Jésus nous assure de sa présence tout au long de notre périple terrestre. Et vous connaissez le texte en particulier de Matthieu 28, verset 20. « Voici, je suis avec vous seulement les dimanches. »
Matin.
Je vois que... Non, c'est tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est une parole importante à nous rappeler et à proclamer dans les moments difficiles. « Seigneur, tu as promis d'être avec moi. » Tous les jours. Quand ça va et quand ça va pas. Quand je suis en forme et quand je suis pas en forme. Quand j'ai des bonnes nouvelles, quand j'ai aussi des mauvaises nouvelles. Quand j'ai l'impression que tout va de travers dans ma vie. Je proclame, Seigneur, tu as promis d'être avec moi tous les jours. Et le Seigneur nous aide. Donc, on a tordu le cou à une première idée, celle que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. C'est pas vrai. Et si on vous avait dit ça, eh bien c'est bon. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Mais attendez, il y en aura d'autres, des bonnes quand même. Élisée, lui, ne se plaint pas de la situation. Quand on lit ces textes, à aucun moment on voit Élisée se plaindre en disant « Mais moi, je suis prophète quand même de Dieu, je pourrais quand même avoir un autre sort, quoi, mince !» À aucun moment, Élisée ne se plaint. À aucun moment, il n'est découragé par son sort. Et à aucun moment, il n'est en révolte contre Dieu. Ce que j'aime avec Élisée, c'est qu'il ne cherche pas non plus à fuir les difficultés. Si moi j'avais été Élisée, peut-être que j'aurais dit, je vais m'exiler dans un autre pays, histoire d'avoir un peu de quoi manger, vivre un peu mieux, attendre que ça se tasse, et quand ça ira mieux, je reviendrai. On a des exemples dans la Bible, hein, des personnes qui l'ont fait. Exemple de Ruth, la famille de Ruth, enfin Ruth était Moabite, mais voilà, cette histoire nous parle qu'ils ont... Ils sont partis, il y avait une famine, ils sont partis, etc. Élisée ne fait pas ça. Élisée ne cherche pas à contourner une difficulté. Il n'attend pas que les jours s'améliorent pour revenir ensuite dans la situation. Mais fidèlement, il poursuit son travail de porte-parole de Dieu. Élisée, c'est un prophète. Et un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Voilà ce que fait Élisée. Il a toujours le souci du peuple. Et ici, en l'occurrence, il prend soin de ses disciples qui sont rassemblés à l'IBG. Ce n'est pas l'Institut biblique de Genève, mais l'Institut biblique de Gilgal. Et il va les nourrir spirituellement. Alors j'ouvre ici une parenthèse. Et je me suis dit, mais n'est-ce pas ce que Jésus nous a confié, ou n'est-ce pas ce que Jésus nous a appelé à faire ? Dans le grand mandat qu'il nous a confié, vous connaissez ce grand mandat, Matthieu 28, versets 19 à 20. Nous lisons, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parfois, on s'arrête là. Mais ça continue. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Comment mettons-nous en pratique ce mandat? Avec qui partageons-nous ce que Dieu a fait? Comment faisons-nous des disciples de Jésus? Est-ce que nous avons des disciples? Est-ce que nous suivons des personnes? Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est l'affaire de Marc-Étienne. Hein? Si je relis le texte, c'est pas marqué « Allez, vous, les pasteurs, ou les missionnaires, ou les évangélistes, et faites... Hein, » Ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, les disciples, en premier, puis, par extension, nous, chaque chrétien. Comment est-ce que nous faisons des disciples de Jésus? Comment est-ce que nous prenons soin des autres? Suis-je en train de faire ce que Dieu me demande? Ou bien ai-je pris une autre voie? Peut-être nous avons besoin de faire le point et de remettre de l'ordre dans nos prières, nos priorités, pardon. Pour rebondir sur ce qu'a dit Paul tout à l'heure, si le matin je me lève et que je commence à ouvrir la Bible en disant « Voilà, j'en suis où déjà? C'est quoi que je dois lire ?» C'est un petit signe que quelque part vous avez perdu votre joie et que probablement vous n'êtes plus dans la joie de lire cette parole pour la partager. Je pense que là, il y a quelque chose, un petit signal dans votre tête qui s'allume, une petite lumière qui clignote. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'église persécutée et j'ai convenu avec Marc-Étienne que je ne prêcherai pas sur ce domaine, sur ce thème, pour lui laisser le faire. Il le fait à Carpentras et peut-être il le fera aussi avec vous un autre moment. Donc, je lui ai laissé j'ai pas voulu aborder ce thème-là. Mais je voulais quand même lire un témoignage d'un chrétien égyptien. Au lendemain de la révolution qui a secoué son pays en 2011, voici ce qu'il écrit. La question la plus importante n'est pas « que va-t-il se passer demain ?» mais « que pouvons-nous faire aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'Église ?» Je crois que c'est une opportunité pour rechercher la repentance et le salut de notre nation. Nous, chrétiens, devons aujourd'hui refléter l'amour et le pardon de Jésus. Nous sommes les seuls à porter la lumière de Jésus et nous ne pouvons pas le cacher tout comme on ne peut pas garder le sel dans la salière. Il doit se dissoudre dans tout le plat pour donner sa saveur. Nous avons connu l'injustice, la discrimination et les agressions physiques depuis des décennies. Mais ce n'est plus le moment pour notre Église de se plaindre de ses droits bafoués, de ses bâtiments détruits, de ces expériences douloureuses. Non, c'est le temps pour proclamer Jésus. Waouh ! Quand on lit ça, on se sent un peu repris. Hein. Ça, c'est la mise en pratique du mandat, grand mandat que Jésus nous a laissé. Je referme ma parenthèse pour cette réflexion que je laisse à chacun. Élisée est attentif aux besoins spirituels, aux besoins physiques aussi de ses disciples. Il ne leur dit pas, écoutez, on va prier et puis oubliez que vous avez faim parce que c'est psychologique, en fait. Si vous pensez à la nourriture, vous aurez faim, donc oubliez ça. Et puis, non, il ne dit pas ça. Il sait que les ventres sont vides. Alors, il donne un ordre à un serviteur. Sortir la grande marmite pour faire le super festin. Non, préparer un potage. Je ne sais pas si vous êtes amateur de soupe. Moi, c'est moyen. Mais voilà. Grand festin, un potage. Quel festin en perspective. Waouh. Puis voilà que cette perspective, elle est gâchée par une initiative malheureuse. Quelqu'un a jeté dans la soupe du poison. On nous parle dans le texte des colocantes. Alors, des colocantes, je ne sais pas si vous savez vraiment ce que c'est, mais selon les définitions, c'est quelque chose qui ressemble à des concombres. Mais ils sont tellement amer qu'on les a surnommés le fiel de la terre. Donc je vous laisse un peu imaginer le goût que ça peut avoir. Hein. Pris en grande quantité, ces plantes peuvent être mortelles. Ces coloquins peuvent être mortels. Et là, le résultat est désastreux. Les disciples affamés mangent parce qu'ils ont faim. Mais voilà, la mort est dans le pot. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, tout n'est pas bon dans ce monde, et de loin. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention aux intoxications en tout genre. De nos jours, beaucoup de choses paraissent bonnes, voire inoffensives. Elles sont jolies, un peu comme ma plante à tabac, hein. Mais la mort est au bout. La Bible nous dit, dans le Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Attention à toute forme de souillure. Alors, quand on parle de souillure, on s'imagine, allez, drogue, alcool, c'est en général ce qu'on pense en premier. Oui, c'est vrai. Mais il y a des drogues beaucoup plus subtiles que la cocaïne qu'on peut s'injecter dans les veines. Il y a peut-être la dépendance à la pornographie. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès à la pornographie sans que personne soit au courant, avec les ordinateurs, avec Internet. Je ne suis pas en train de diaboliser Internet, hein. Mais nous devons être vigilants. Et puis, il y a aussi les mœurs libres, les différentes choses qui nous guettent et qui, finalement, polluent, détruisent notre esprit. Nous avons vraiment besoin d'être vigilants. Peut-être que si nous sommes tombés dans ces pièges, dans ces situations, alors nous devons rechercher le soutien des autres. Et ça, c'est en général quelque chose de difficile parce qu'il nous faut avouer quelque chose. Et là, on n'aime pas trop. En général, on préfère cacher plutôt que de dire. Le problème, c'est que quand on cache, on n'arrive pas à s'en sortir soi-même. Et il nous faut du soutien. On a les frères et sœurs dans la foi qui ne sont pas là pour nous juger. Évidemment que peut-être il nous faut aussi du discernement, peut-être pas aller s'ouvrir à n'importe qui. Si vous connaissez telle personne, vous savez que c'est Radio Cavaillon, ben c'est peut-être pas elle qu'il faut aller voir. Mais des frères et des sœurs, couple pastoral et autres, qui peuvent vraiment vous aider et apporter un soutien à ce niveau-là. C'est possible. Ne restons pas dans cette situation-là. Deuxième piège, c'est les initiatives personnelles. Les initiatives personnelles. Ah là 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 là. Ça, c'est quelque chose qui nous guette tous. Ça part souvent d'un bon sentiment, d'une bonne volonté. Le problème, c'est que ça engendre des résultats parfois calamiteux, désastreux. Dans la Bible, on en a. Hein. Vous vous rappelez Abraham et Sarah. Dieu leur fait une promesse d'avoir une descendance. Et eux, ils y écoutent, ils y croient. Seulement, Dieu n'a pas dit que ça serait demain ou 9 mois après. Ça a un peu duré, 25 ans. Alors au bout de 10 ans, eux, ils ont pris une initiative. Peut-être que Dieu voudrait qu'on fasse ça. Et plop, Agar, la servante égyptienne, est introduite. Et on connaît les problèmes encore aujourd'hui. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu réitère sa promesse. C'était Ismaël, 25 ans après. La promesse s'est réalisée. Quelle souffrance évitable. Ici, dans le récit, c'est un homme qui pense bien faire et qui se dit, de toute façon, les estomacs sont vides, il faut les remplir. Donc, si on met un peu plus, si le potage, peut-être il n'est pas fan comme moi du potage, si on l'épaissit un peu, c'est pas mal. C'est une bonne idée, non? Qui va lui jeter la pierre? Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il a mis dedans. Lui non plus ne connaît pas ce qu'il a touché. Et ça, c'est un problème. Quand on ne connaît pas. Prudence. Je me rappelle en Afrique, on avait un moment donné où c'était très sec, il n'y avait rien qui poussait. Et je voyais des espèces de plantes avec des grosses feuilles et puis des fruits. Et je me suis dit, mais il y en a plein partout, ça. Ça doit être un truc super. Puis après, je me suis quand même dit que c'est curieux qu'il y en a plein partout, mais personne ne les ramasse. Donc il y a probablement un souci quelque part, effectivement. C'est une plante poison. Et ses fruits, c'est poison. Il ne faut pas en manger. Donc, si j'avais suivi ma première idée, on en aurait mangé et je ne serais pas là aujourd'hui. Troisième piège, c'est nous devons faire attention au mélange. Le diable est malin pour distiller juste un peu de vérité au milieu de beaucoup de mensonges. Paul exhorte les chrétiens de Colosse, ce qu'on a lu tout à l'heure, à rester attachés à la saine doctrine pour ne pas dériver. Et ne pensons pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous aussi. Si on ne lit pas la parole de manière sérieuse, de manière avide de comprendre cette parole. Beaucoup de nos contemporains souffrent de famine spirituelle. Et pour se rassasier, ils cherchent tous azimuts. C'est incroyable ce que les gens cherchent. Bernard, Marc-Étienne, sur le marché, moi aussi sur le marché, et ceux qui font les marchés s'en rendent compte. Vous côtoyez des gens qui cherchent, mais c'est effrayant de voir ce qu'ils cherchent et partout. Un jour, une femme m'a dit, sur le marché, qu'elle était chrétienne bouddhiste. Je me suis demandé comment c'était possible d'être chrétien et bouddhiste en même temps. Ça ne marche pas ensemble. Mais elle avait l'air sincère, je suis chrétienne bouddhiste. Quel mélange! Soyons prudents et restons basés sur le terrain solide de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça c'est un petit principe, s'explique par la parole de Dieu. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, d'autres textes mettent parfois en lumière certaines choses. Donc la parole de Dieu s'explique par la parole. Alors voilà, si la mort est dans le pot, et si les hommes sont condamnés à mourir, heureusement, l'homme de Dieu est là pour écarter le danger. Et que fait l'homme de Dieu? Que fait Élisée? Eh bien, il va jeter de la farine dans la marmite. Et cette farine va neutraliser ce qui est mauvais. C'est étonnant, hein? Un peu de farine va neutraliser ce qui est mauvais. Ici, la farine symbolise ce qui est bon. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. La farine est bonne. Mais vous savez comment elle s'obtient la farine? Il n'y a pas l'arbre farine. Hein? Il n'y a pas la plante farine. Elle s'obtient comment? En écrasant du blé, en écrasant le grain. Et la Bible nous dit, c'est ce que Jésus nous dit lui-même, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La farine doit être broyée. Cette farine broyée est jetée dans le pot pour assainir et secourir les disciples. Et là, nous avons l'illustration de l'œuvre de Christ sur la croix. Nous étions mortellement intoxiqués par le péché, mais Jésus nous a secourus en prenant sur lui notre condamnation, en nous offrant sa justice. Oui, la mort était dans le pot des disciples, mais par Élisée, l'homme de Dieu, elle a été neutralisée et écarté miraculeusement. La mort aussi était dans notre vie, le pot de notre vie. Mais Jésus, le divin Élisée, l'a neutralisé et englouti en donnant sa vie pour nous. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Deuxième partie, deuxième point, multiplier ce qui est bon. La deuxième histoire, 42 à 44. Je serai plus bref là-dessus, mais j'aimerais insister sur le fait que ici c'est bon. Dans l'histoire, un homme apporte des choses et les choses sont bonnes, mais c'est insuffisant. Dans le premier miracle, il fallait neutraliser le mal à cause d'une contamination extérieure. Ici, il s'agit de multiplier le bon. Le bon n'est pas toxique. Encore une fois, le bon n'est pas mauvais, mais il est insuffisant. On nous parle de 20 pains d'orge pour 100 personnes. C'est évident que c'est insuffisant. Des gens qui vivent la famine depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui ont faim, vous imaginez 20 pains pour 100 personnes. C'est insuffisant. Mais Dieu va pourvoir aux besoins de ses enfants, et il le fait en particulier en temps de crise. Ce qui frappe dans ce récit, c'est la similitude des miracles accomplis par Élisée et accompli par Jésus. D'ailleurs, si on regarde bien la Bible, ce sont les seuls miracles dans toute la Bible, les deux seuls, Élisée et Jésus, qui vont accomplir ce genre de miracle. Élisée va multiplier 20 pains pour nourrir 100 personnes, mais Jésus, des siècles plus tard, va faire le même miracle, deux fois, mais de façon plus extraordinaire. Ce n'est pas 20 pains, mais dans un miracle, c'est 5 pains et des poissons, 2, 3. Et combien de personnes sont nourries? On nous parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on calcule bien, peut-être 10 000. Et puis, dans l'autre cas, c'est d'autres pains qui sont aussi multipliés. Et là, c'est des milliers de personnes, 4000, pareil, qui sont nourries. 7 pains. Donc, il est impossible d'entrevoir ce deuxième récit sans un regard christologique. Parce que Élisée est vraiment un précurseur de Jésus. L'homme généreux apporte les prémices de sa récolte. Normalement, on apportait sa prémisse de la récolte au sacrificateur, comme la loi le stipulait, Lévitique 23:10. Mais là, cet homme va l'apporter à l'homme de Dieu, à Élisée. C'est inhabituel et la raison n'est pas précisée. Mais ce que nous savons, c'est que ça répond à un besoin important. Ces hommes manquent de tout et Dieu pourvoit avec la venue de cet homme. Ce qui étonne encore plus, c'est que Élisée fait distribuer ses pains à toute la communauté, alors que normalement ces pains étaient réservés aux prêtres. Mais là, chacun va en recevoir un morceau. Et là, nous avons, encore une fois, ce rapport christologique, ce geste qui anticipe ce que sera la nouvelle alliance avec la venue de Jésus. En mangeant ces pains destinés aux sacrificateurs, c'est toute la communauté qui devient apte au ministère. L'apôtre Pierre nous déclare, dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Comme chrétiens, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça notre rôle. Cette multiplication des pains nous rappelle que nos ressources sont insuffisantes pour servir Dieu. Mais Dieu veut pourvoir au fur et à mesure à nos besoins. Quand nous démarrons une œuvre, vous ici à Cavaillon, c'est encore petit. Nous à l'Île-sur-Sorgue, où c'est encore plus petit. Je dis, Seigneur, mais on n'est pas capable. Le Seigneur, il me dit, je sais. Et c'est bien, parce que tu comptes sur moi. Et le Seigneur veut donner au fur et à mesure ce que nous avons besoin. C'est ça qui nous encourage. Nous sommes invités à compter sur Dieu, mais à lui offrir ce que nous avons, pas ce que nous n'avons pas. C'est Dieu qui veut nous équiper pour que nous puissions remplir le ministère que Dieu nous a confié. Vous avez vu que ce texte se termine par une note d'espérance. Dieu n'est pas radin. Dieu ne donne pas le minimum pour éviter le gaspillage ou par souci d'économie. Mais Dieu pourvoit avec largesse et surabondance. Vous avez vu, il y a du reste. Verset 44, « Ils mirent alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de Dieu. » Dieu n'est pas radin. Dieu donne avec largesse. Quand Jésus a multiplié les pains la première fois, combien de pains il restait? 12. 12 paniers pleins la première fois. Et je pense que là, il y avait quelque chose pour les disciples. Une belle leçon pour eux. La deuxième fois, combien il en reste? 7. Et là aussi, il y a quelque chose à comprendre. Le chiffre 7, la plénitude. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Chaque fois, il y a du reste. Dieu pourvoit largement. Avec Jésus, nous pouvons être certains qu'il pourvoira à tous nos besoins, matériels si nécessaire, et spirituels surtout. Rien ne manquera pour que notre ministère soit fécond et porte du fruit, beaucoup de fruits, pour sa gloire. Alors, nous sommes appelés à nous engager. Rappelons-nous cette grande mission que Dieu nous a confiée. Engageons-nous résolument pour servir le Maître et osons rêver d'une moisson abondante. Pour conclure, ce passage de l'Écriture, finalement, nous rappelle que Dieu nous a secourus en Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque en Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, il y a quelque chose qui me manque, Jésus, il ne me suffit pas? Si nous avons compris l'Évangile, nous ne pouvons pas dire ça. À l'instar des disciples d'Élisée, nous étions aussi contaminés par la mort. La mort était dans le pot de nos vies, le péché. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a cherchés. Dieu s'est approché de nous. Dieu a neutralisé ce qui était mauvais en Jésus. Et par Jésus, nous avons la vie. Jésus est venu neutraliser ce qui était mauvais, ce qui nous détruisait. Il est venu porter sur lui notre péché. Jésus veut nous rassasier avec ce qui est bon et en même temps nous préserver de la chute. Alors, nous pouvons avancer librement, tranquillement, dans sa paix, sa joie, en ayant le privilège de pouvoir le servir. Dieu nous rappelle aussi que le mandat qu'il nous a confié tient toujours. La famine spirituelle dans notre monde est toujours là. Et elle fait des victimes tous les jours. J'ai parlé du tabac tout à l'heure. Sur les paquets de cigarettes, c'est marqué « fumer tue ». Mais les gens ne voient plus ça. Mais le péché fait encore plus de victimes et frappe tout le monde. Et depuis le début, il serait temps que les choses changent. Que faisons-nous pour que ça change? J'aimerais juste vous lire un dernier témoignage d'un pasteur syrien. Pasteur syrien de la ville d'Alep. Donc si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que la ville d'Alep a été bombardée, elle est presque rasée aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit. Je crois et je constate que Dieu est à l'œuvre dans le pays. Il parle de quel pays, là, rappelez-moi? La Syrie. Je crois et je constate que Dieu est à l'œuvre dans le pays. Il nous a fait sortir de nos quatre murs. Dans le passé, nous n'avions que nos cultes, nos chorales, nos activités sociales, etc. Maintenant, je vois l'Église aller vers ceux de l'extérieur. Nous sortons enfin de notre zone de confort. Peut-être qu'il y a quelque chose à glaner pour nous. Peut-être que nous devons capter ce message et n'attendons pas de vivre ce que les chrétiens de Syrie ont vécu pour nous mettre au travail et pour demander au Seigneur de ranimer peut-être cet élan que nous avons perdu. En tout cas, Dieu veut se servir de nous comme un canal pour répandre cette bonne nouvelle autour de nous, cette bonne odeur de Christ, comme dit la parole. Amen. Voulons prier.